Le message que vous allez suivre est un enseignement de la pastorale pour la propagation de l'Évangile. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. PPE, propagez l'Évangile pour le salut de la multitude et la joie du ciel.
Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi.
Ce n'est pas facile
de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini.
Le son dit je te fais confiance.
Je te fais confiance.
Et dis ces paroles, je te fais confiance.
Je te fais confiance.
Même dans ma déchéance, je marche les yeux levés. Ce n'est pas facile, Seigneur.
Ce n'est pas facile.
Je t'accorde du crédit en ce soir. Prends ce chant avec ton cœur.
Laisse-toi
parler maintenant. Prends ce chant qui dit je te fais confiance.
Je te fais confiance.
Je te fais confiance.
Je te fais confiance. Oh, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas facile pour moi de chanter ce refrain. Je te fais confiance. Je te fais confiance.
Dis ça avec.
Ce n'est pas encore fini.
Dis, ce n'est pas encore fini parce que je te fais confiance.
Je te fais confiance.
Je vais entendre quelqu'un dire à Dieu.
Je te fais confiance.
Je te fais
confiance.
Ce n'est pas encore fini.
Ce n'est pas facile pour moi.
Ce n'est pas facile pour moi
de chanter ce refrain.
Et pendant que nous et le cœur on se tait maintenant,
confiance.
Tu dis ces paroles.
Je te fais confiance. Ce n'est pas.
Dis ça avec vraiment, ce n'est pas encore fini. Ton histoire n'a pas encore commencé. Dis encore. Oh, yeah. Dis à Dieu. Dis encore. Encore une fois. Et pense à ces mots. Dispense à ces mots. Tu penses à ces mots. Oh, yeah. Encore une fois.
Je te fais confiance.
Encore une fois.
On va ensemble baisser la tête et puis prier. Demander à Dieu, Seigneur, parle-nous ce soir. Éclaire-nous, enseigne-nous pour ce quatrième enseignement que tu nous donnes dans cette série de d'enseignement dans ce séminaire de cinq semaines. 5 semaines de faveur, 5 semaines de grâce. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, éduque-nous. Dis-nous quelque chose de nouveau. Sachant que le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Le sacrifice ultime. Amen. Donc, élevons la voix et prions, s'il vous plaît. Seigneur, accorde-nous la grâce en ce soir de saisir ta pensée, de te rencontrer et de vivre quelque chose de particulier avec toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons réellement besoin de toi. Oui, Dieu, ouvre notre intelligence, éclaire notre esprit et parle-nous. Nous voulons vivre quelque chose d'intime avec toi. Et nous ne voulons pas que ce temps que nous allons passer en ce soir, en cet après-midi, soit inutile. Car nous voulons te rencontrer vraiment. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous allons repartir sur notre même test. Vous savez que c'est le même test. Je vous ai dit, c'est le même test qu'on va décortiquer en plusieurs. C'est pas ça. Donc, le même test de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 11. Donc, aujourd'hui, il va lire jusqu'au verset 21. Luc, chapitre 15, verset 11 au verset 21. On parle du fils perdu et retrouvé. Quand on dit prodigue, ça veut dire dépensier. Mais c'est pas seulement dépensier. Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte. Donc, le fils perdu est retrouvé. Berger, tu peux lire.
Oui. Luc, chapitre 15, parabole du fils retrouvé. Il dit encore, il y avait deux fils, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. »
Donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Voilà un monsieur, son papa n'est pas encore mort. Et puis il dit, mais c'est normal, hein, chez les Juifs, on n'attend pas que tu meurs. Tu n'attends pas de mourir avant de distribuer ton héritage. Ce n'est pas comme ça, ça marche. Seulement que là, il y a un risque. Parce que si on partage l'héritage et que le père continue de travailler, est-ce qu'il va produire, qui va prendre? Non, moi, je vais attendre que tu meurs. Là, tout ce qui reste, c'est pour moi. Voilà pourquoi l'aîné, si vous avez regardé dans cette histoire, il n'a pas demandé pour lui, mais il est resté là. De sorte que quand le père va parler après, si vous avez fait très attention, il a dit quoi? Tout ce qui est à toi et tout ce qui est à moi est à toi. L'aîné a été trop futé, trop intelligent. Parce que s'il t'a donné, tu n'as plus de part avec lui. Ce n'est pas ce que le premier lui l'a fait. Le premier, le second l'a dit, donne-moi ma part d'héritage qui me revient. Continue.
Et le père leur partagea son avoir. Mm-hmm.
Peu de jours après,
le plus jeune fils, ayant tout réalisé, partit pour un pays lointain.
Il allait loin de son papa. Le jeune fils est allé, on dit un pays lointain. On ne sait même pas c'est où. C'est-à-dire il allait vagabonder quelque part. Il allait très loin de son papa. Mm-hmm.
Et il dilapida son bien dans une vie de désordre.
Et il dilapida sa richesse dans une vie de désordre. Hier, j'étais en train d'échanger avec un monsieur avant de continuer. Et puis, il venait me solliciter pour une aide. J'ai profité pour lui présenter l'évangile. Il y a ma femme qui disait, il était convaincu que lui, là, quand il allait s'asseoir, tu allais lui prêcher l'évangile. Quand il s'est assis, j'ai échangé avec lui et puis je lui ai dit, pour toi, quelle est la chose la plus importante pour un homme avec ses enfants, tout ça. Il dit non, c'est de garder un héritage à ses enfants, il faut qu'ils aient ça. Et puis je lui ai dit, le plus grand héritage que tu puisses laisser à ton enfant, ce n'est ni maison, ni argent, ni or. C'est l'éducation que tu vas lui donner. Cette éducation, même si tu n'es pas là, il peut réaliser maison, or, tout ce que tu veux. Le plus grand héritage qu'on puisse laisser à un enfant, quand on dit l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants, il laisse une alliance qui parlera et qui perdurera dans le temps pour lui et toute sa génération après lui. C'est pourquoi Dieu dit, il est le Dieu de l'alliance qui établit son alliance dans le livre de Exode chapitre 34, il dit, qui établit son alliance jusqu'à la millième génération. Donc si tu as donné, c'est pourquoi vous allez voir dans le livre de Deutéronome, il va dire que si tu écoutes ma voix et que tu enseignes mes préceptes à ta postérité, ma main ne s'éloignera point de vous. Vous voyez. Donc l'alliance de Dieu est le plus grand héritage qu'un homme puisse avoir. Voilà pourquoi vous allez voir que dans la Bible, nous avons eu deux aspects. Il y a l'ancienne alliance et la nouvelle alliance qui sont notre héritage dans le Seigneur. Donc, la chose la plus importante que tu puisses laisser à ton enfant, c'est de tisser une alliance, de tisser une alliance pour ta famille, pour tes enfants, avec le Seigneur. De sorte que Dieu se reconnaisse en tes enfants, en ta famille. Amen. Le plus grand héritage, ce n'est pas donner ta maison à quelqu'un. Ce n'est pas donner. C'est important de laisser des biens, hein? Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'éducation réelle. Je dis toujours aux gens que mon père, quand il mourait, il m'a donné une saérienne, hein? un panté gros bas. J'ai gardé dans mes affaires. Des fois, comme ça, je me lève et puis je me soulève le pantalon et il regarde. Il dit, hey, c'est ça là, on a laissé comme héritage à quelqu'un. Mais en même temps, dans mon esprit, le plus beau cadeau qu'il m'a fait, c'est l'éducation qu'il m'a donnée. C'est le courage, l'abnégation, l'humilité, la compréhension, l'amour du prochain qui m'a légué. Ce qui a fait de moi ce que je suis. Amen. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, quelqu'un me suit? Donc, je suis en train de nous dire, avant de continuer ce test, que si nous voulons laisser un véritable héritage à nos enfants, commençons par penser déjà à quelle sorte d'éducation on va laisser à nos enfants pour ne pas que demain ils s'éloignent. Pour ne pas que demain ils soient dans la malédiction. Pour ne pas que demain ils soient sujets à plusieurs problèmes. Le plus beau cadeau que tu puisses faire à ton enfant, tu peux garder de l'argent, c'est vrai. Mais imagine un père qui a appris à son enfant le courage, la détermination, l'abnégation. Qu'est-ce qui va effrayer l'enfant? C'est dit, même s'il n'a pas, il sait qu'il faut grouiller. Vrai ou faux? Mais si tu lui laisses cet argent, écoute-moi bien. Il y a beaucoup qui pleurent ici parce qu'ils disent, moi-même, mon père, quand il mourait, il ne m'a rien laissé. Je m'en fous si tu n'as rien laissé. Tu as tes deux pieds, tu as tes deux mains. Ou bien, un jour, alors que je me plaignais, il a dit, non, le Seigneur, vraiment, je ne comprends pas, il est dur. Mon meilleur ami, mon frère, mon jumeau, mon tout quoi, c'est vraiment mon gars, Armand dit, Philippe, arrête de te plaindre, tu m'énerves quand tu fais ça. Il a dit, pourquoi? Il y a d'autres qui sont nés avec cuillère en or dans leur bouche. Il dit, je m'en fous, Philippe. Il m'a posé une question. Obama, à 24 heures, il a dit, Philippe, Obama, à 24 heures, comme toi, Dieu te donne 24 heures. Lui, il est devenu président. Toi, tu fais quoi pour être président? Point. Ce n'est pas discussion. Le beau héritage, le bel héritage que Dieu a laissé à Obama, il a eu 24 heures. Chaque jour. Moi aussi, il y a 24 heures. Qu'est-ce que moi, je fais de mes 24 heures pour que lui soit devenu président et que moi, je suis en train de me pavaner? Tu peux te plaindre de tout. Tu peux te plaindre de tout. Mais tu ne peux pas te plaindre du temps que Dieu accorde à chaque homme sur la terre. Quelqu'un me suit? Arrêtons d'être ces personnes-là qui passent notre temps à dire « Vraiment, on ne m'a rien laissé. Moi-même, là-même, quel héritage même on m'a laissé? Ma famille est pauvre. » On s'en fout! Naître pauvre n'est pas une fatalité. Ce n'est pas non plus une malédiction. Vous me suivez? Naître misérable, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une malédiction. Mais mourir pauvre, c'est une fatalité, c'est une malédiction. Pourquoi? Parce que mourir pauvre est de ton propre ressort. C'est-à-dire, tu choisis délibérément d'être ce que tu es. Donc, l'héritage que ton papa va te laisser, ce n'est pas la maison. Parce que la même maison qu'il peut te laisser, aujourd'hui, tu vas voir la maison, tu vas vendre ça demain. Et quand tu vas vendre, tu vas penser que l'argent là, c'est suffisant. Hein? Mais il te dit, les millions, c'est comme si c'est les 5 francs, 5 francs. Demain, c'est fini. Et puis, tu n'as même plus 5 francs. Tu dis, mais où l'argent est passé? Qu'est-ce qu'il a fait avec? Mais si ton papa t'a appris à travailler avec tes deux mains, il t'a appris à ne pas voler quelque part, il t'a appris à ne pas tricher, il t'a appris à ne pas mentir, il t'a appris à ne pas insulter les gens. Partout où tu passes, on dit celui-là, il respecte. C'est-à-dire que les gens même te vouent un certain respect. Amen. Quelqu'un me suit? Je pense que vous allez donner un autre héritage que ce que vous aviez prévu initialement. Commencez à réfléchir dans votre vie, quel héritage aujourd'hui j'ai commencé à laisser à mes enfants. Beaucoup parmi nous, nous sommes devenus ces parents qui disons, écoute, c'est de leur temps, il faut les laisser s'habiller comme ceci. Tu es en train de semer un mauvais héritage pour que ta fille soit prostituée demain. Pour que ta fille aime la facilité demain. Non, c'est leur temps, il faut le laisser, il va se coiffer comme ceci. Est-il un coq pour que sa coiffure ressemble à un coq? Demain, ce n'est pas étonnant que celui-là dise, il va faire brutal, il est devenu un mouton. Idiot et bête. Parce qu'il n'a pas encore compris que sa vie là n'est pas, ne se limite pas à ça. Mais cela, moi, j'en veux aux parents. J'en veux aux parents. Moi, je me souviens que mon papa, vous êtes en train, on est assis en train de jouer au damier. Tu es en train de jouer au damier, tu es assis quelque part. Le vieux, quand il arrive comme ça, dans ton dos, c'est qui va mettre là? Tu ne vas plus jamais t'asseoir ici pour jouer au damier. Il dit, ton travail n'est pas de jouer au damier, c'est de travailler pour que toi aussi, demain, tu puisses dormir bien. Tu veux devenir pauvre, c'est ce qu'il te dit. Il dit, continue donc. Il ne va même pas te laisser même avoir le choix de continuer. Te chicoter comme il faut. Quelqu'un me suit? Nous avons commencé à vivre une vie qui ne ressemble en rien à la vie chrétienne. Une vie où nous condamnons dès la naissance nos enfants. Parce que tout ce que chacun cherche, c'est la part du gain. C'est-à-dire, nous sommes tellement portés vers le gain que dans notre tête, il faut qu'on soit riche comme ceci, on laisse un héritage comme cela, oubliant l'essentiel qui est de changer le cœur de notre enfant en la crainte de Dieu, en l'amour vrai de Dieu. Comment vous ne voulez pas que de tels enfants soient les voyous que nous connaissons qui sont en train d'emmerder nos pays aujourd'hui? Notre pays. Ce sont les mêmes personnes là, leurs parents ont fait n'importe quoi et puis ils emmerdent notre pays aujourd'hui. Parce que s'ils avaient appris la véritable éducation de leurs parents, si on leur avait donné une éducation, hein, ils ne se seraient pas comportés en voyous dans cette nation-là. Ils allaient avoir la compassion pour les pauvres. Ils allaient avoir la compassion pour les âmes. Ils allaient avoir le souci de la Côte d'Ivoire qui est gardée unie. Mais comme ils n'ont pas reçu cette éducation, ils ont tout eu des cuillères à la bouche. Ils ont tout eu des bourses pour aller se pavaner je ne sais où. Ils pensaient que c'était la vie facile. Ce qui manque à notre nation aujourd'hui, c'est une éducation digne que les parents auraient laissée à leurs enfants. Quand tu veux toucher ton enfant, les gens disent, écoute, ya, on n'est plus au temps où on frappait les enfants là. Hein? Laisse-moi te dire que si tu commences à raisonner comme ça, toi, tu vas. La Bible dit, écoutez-moi bien, dans le livre de Proverbes, il dit, corrige ton enfant avec la verge, de peur qu'à son adolescence, il ne se rebelle contre toi. Moi, je ne vais pas laisser mon enfant marcher sur ma tête. Ce que toi-même, tu n'as jamais eu, tu dis, ouais, il faut payer. D'accord. Mais qu'est-ce qui accompagne comme éducation pour qu'ils comprennent que si j'ai payé ça, c'est parce que voici. Vous donnez tout ce que vous voulez à vos enfants. Vous n'apprenez pas à vos enfants à gérer. Vous ne donnez pas ce qu'il faut comme éducation réelle aux enfants. Je suis en train de nous engager à une éducation où ton enfant... Je bénis Dieu parce que j'étais avec ma fille Adams tout à l'heure. Et puis elle disait, papa, tes enfants là, ils sont respectueux, ils sont polis comme ça. Dans mon cœur, j'étais réjoui. J'ai dit, oh Dieu, voici un héritage que tu es en train de me donner, de laisser à mes enfants. Mais s'ils ne sont pas respectueux et polis, demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont vouloir me commander. La seule chose qu'il ne faudrait pas faire, la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. C'est-à-dire, tu vas le battre jusqu'à lui-même quand il te voit, mais tu l'énerves. Ce n'est pas ça. Moi, chaque fois que je vais taper un enfant, je vais lui dire, tu sais pourquoi il était tapé? Il dit non. Il dit, tu es sûr? S'il dit oui, il dit pourquoi il était tapé? Il donne l'explication et puis il lui pose la question. Ce que tu as fait, c'est juste ou bien c'est pas juste? C'est normal ou bien c'est pas normal? Il dit, c'est pas normal. Il dit, donc il était en droit de te frapper, non? Il dit, oui. Il dit, tu as compris maintenant? Il dit, oui. Il dit, tu vas plus faire? Oui. Et puis il continue. S'il dit, il sait pas pourquoi il est frappé, puis je lui raconte ce qu'il a fait. Puis il dit, est-ce que c'est normal? Il dit, non, papa. Il dit, mais pourquoi c'est pas normal? Il dit, non, parce que voilà, il a fait ça, il a fait ça. Il dit, donc tu vas plus faire? Bon, tends ta main. Ou bien, pied au milieu, pied, mets sur fesse là. Demandez-le. Leurs fesses sont rouges. Je ne suis pas dans vos bêtises. Hein. L'éducation que tu vas laisser, c'est ce qui va donner une empreinte à tes enfants. Demain, quand on verra tes enfants, on va les applaudir. Ce n'est pas une question de y laisser vilain. Allez demander à Cocody, les enfants qui sont partis en France, à combien ils reviennent voir les maisons qu'ils ont laissées à Cocody? Ils n'ont plus le temps pour ça. Ton héritage est dilapidé. C'est qu'on vient de lire, il vient de lire. On dit qu'il a dilapidé ça. Il allait faire le saut avec. Amen, amen, amen. Quelqu'un m'a compris. Qui prend l'engagement d'éduquer son enfant comme il faut? De redresser l'enfant, de changer sa bouche quand il parle là. Tu dis, tais-toi, tu tapes sa bouche. Pas. On ne parle pas comme ça. Je vais vous donner une petite expérience personnelle. Il y avait ma cousine qui était arrivée. Ma cousine était arrivée à la maison chez nous. Et puis il s'est trouvé qu'elle avait manqué de respect à une femme. Bon, elle n'avait pas manqué de respect. Il y a une femme qui s'est comportée très mal. Donc ma cousine, elle est plus petite, c'est une maman. Ma cousine a réagi pour dire non, mais tanti, pourquoi tu. Elle a crié en fait. Pourquoi tu agis comme ça? Et puis la femme a giflé ma cousine. Donc moi, dans mon zèle, c'est moi, je suis le défenseur quand même. Je viens et dis pourquoi tu oses parler, tu oses taper ma cousine? Et puis elle dit quoi si c'est à moi tu fais ça? Il dit et puis quoi encore? Hé! Hey! Il a parlé, parlé, parlé. Elle dit j'ai compris, merci beaucoup. Le soir, ils ont dit à mon papa, lui, quand c'est quoi? Il va rien dire. Moi, je le connais. Ils ont dit à mon papa, il n'a rien dit. Depuis là, il ne m'appelle pas. Il dit, mais. Ah! Mais laissez-moi vous dire, avec mon papa, tu ne peux pas bien dormir. 4 heures du matin. Il dit, hé, quoi si, Ndiasso? Eh oui, papa. Il dit, tranwa. Ça, il parle en anime maintenant. Quand il est très fâché, quand il n'est pas fâché, il parle à Polo. Quand il est tranwa, il dit, tranwa. Hier nuit là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit qu'il voulait parler. De toute façon, il m'a giflé, je me suis bien réveillé. Il voulait parler encore, il m'a giflé. Le jour là, il y a eu 6 paires de gifles. 12 coups. Je ne vais jamais oublier de ma vie. Et quand il a fini de me gifler comme ça, il a dit, toutes ces années d'études que tu as eu à faire là, c'est pour mourir comme un idiot. J'ai dit, comment ça? Il dit, manquer de respect à une personne âgée, tu appelles la mort, la malédiction sur toi. Le travail que tu vas chercher, ça ne va pas aboutir. C'est pour ça que tu as fait les études. Moi, je me suis dépensé pour tout ça. Pour que toi, tu puisses faire des bêtises. Quoi si c'est ça? Il dit, non, papa. Et la première fois de ma vie, je vois mon papa en train de pleurer. Et il dit, j'ai fait tout ça pour que tu puisses me faire pleurer aujourd'hui. Tu ne sais pas que manquer de respect... Tu attires la colère de Dieu sur toi. C'est pas toi, on dit tu es chrétien là. Pour moi, j'étais dans ma logique, je ne voyais pas où il avait fait le mal. Mais quand il a commencé à parler, au fur et à mesure qu'il parlait, mon intelligence est ouverte. Et puis il dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et il a dit, si je veux entendre une seule chose de toi, c'est que tu es l'enfant le plus humble de la terre. Je ne veux plus jamais entendre qu'une personne âgée que toi parle et puis tu ouvres ta bouche. J'ai changé de vie. Et je bénis Dieu pour mon père. Je dis toujours à tous ceux qui sont autour de moi, le meilleur papa au monde, je ne connais pas vos papas, hein. Moi c'était mon papa. Je ne connais pas vos papas. Hein. Mais ceux qui connaissent mon papa là, vous imaginez quelqu'un qui meurt en une semaine, il me dit tu mentais au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, il partait faire l'enterrement, il y a eu plus de 3500 personnes au funérailles. 3500. On n'a pas prévu que les gens partent nous accompagner au cimetière. On n'a pas prévu ça, il n'est pas mis dans mon programme. Les gens, la nuit, à 2h du matin, eux-mêmes disent, mais quoi si donc, il n'y a pas... Nous, on veut accompagner le vieux aussi au cimetière. On dit, non, on n'a pas prévu ça. Ils appellent comme ça. Le lendemain, plus de 11 cas alignés. Maxime, où il est? Il s'est levé. C'est faux. Plus de 11 cas alignés comme ça. Ils nous accompagnent à Bassam, on s'est enterré le vieux. Parce qu'il était exceptionnel. Il ne jouait pas à l'éducation d'un enfant. Et puis, si tu n'es pas son enfant, il passe, il te voit faire des bêtises, il te frappe. Et c'est pourquoi moi aussi, un enfant de PPE que je crois, de toutes les manières, si tu es dans PPE, je m'excuse, ton enfant m'appartient. Je vais le botter. Éduquons nos enfants, s'il vous plaît. Éduquons-les. Donnons ce qu'il faut à nos enfants. Vous qui n'avez pas encore fait d'enfant, oubliez vos projets de bon. Tu sais qu'on fait puis en vacances, on s'en va à Paris. Hein? Oubliez! Vous pouvez aller à Paris à eux, mais à Paris là-bas, il est en train de faire n'importe quoi. Mais je te fais pas. On ne fait pas ça. Ou bien tu lui parles. Tu lui parles. S'il n'écoute pas, tu parles encore. Il n'écoute pas, tu réagis, tu le tapes. Préparez vos enfants. L'éducation d'un enfant, on ne joue pas avec. L'éducation d'un enfant, on ne joue pas avec. Il dit, corrige ton enfant avec la verge ou encore le bâton. De peur que, à son adolescence, il ne se rébelle contre toi. Combien d'enfants adolescents tiennent tête à leurs parents? Vous ne voyez pas ça? Mais c'est parce que dès la base, on n'a pas inculqué la crainte, le respect de l'aîné. Moi, je suis étonné, les jeunes frères qui sont ici, ils nous appellent et puis ils nous appellent par ton nom. Chez nous, celui qui est bon à Ni ou bien bon à Polo, il sait ce que ça veut dire. On n'appelle jamais un aîné par son nom. Tu l'appelles grand frère ou bien grande sœur. Ça s'arrête là. Mais je vois... Si tu commences à appeler quelqu'un qui est plus grand que toi, grand frère ou grande sœur, il y a des choses que tu ne vas jamais dire à la personne. Il y a des comportements que tu ne vas jamais avoir. Mais quand tu l'appelles par son nom, tu penses que vous êtes amis.
Ce n'est pas la même catégorie. Lui, quand je joue en série A, là, toi, tu as division corpo de Côte d'Ivoire. Parce que vous n'avez pas appris le respect. Jusqu'à aujourd'hui, le berger Gounion Roland, c'est mon grand frère. Il a du mal. C'est mon fils spirituel. Mais parce que c'est mon grand frère, nous, on partait le voir. J'ai du mal à l'appeler. Roland, viens ici. Quand je l'appelle, il dit, grand frère, ou bien bishop, vieux père, c'est comment? Il dit, non, dad. Oh, il m'appelle, il dit, papa, il dit, vieux père. C'est mon grand frère. Parce que cette éducation nous a été donnée, c'est calqué dans nos veines. C'est inculqué. On nous a inoculé cela. Comment vous pouvez appeler votre aîné par son nom? Qui vous a appris ces choses-là? Qui vous a appris ça? Si on vous avait appris ça dans vos cultures, enlevez ça. Enlevez. Vous n'avez pas appris ça, c'est pourquoi vous manquez de respect aux gens quand vous parlez. C'est pourquoi vous avez bouche pour insulter les gens. Si vous aviez appris l'éducation qu'il faut, il y a des choses que vous n'allez jamais faire. Amen, alléluia. Alléluia. Donc, j'ai parlé des enfants, j'ai parlé de vous aussi. Continue.
Quand il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays.
Ce qui est bien, Dieu, même si tu as donné ton héritage, tu as allé gaspiller pour te créer problème, ou du moins, dans son amour, il va te créer problème. Il fait une situation malencontreuse, difficile, t'arrive, pour que tu réfléchisses. Regardez la suite.
Et il commença à se trouver dans l'indigence.
Voilà, il a commencé à avoir problème, il a besoin de tout. Continue.
Il alla se mettre au service d'un citoyen de ce pays.
Au départ, dans son esprit, il ne réfléchit pas. Dans l'indigence, quand nous, vous et moi, on a des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à avoir travail, non. Des fois, tu es dans une entreprise, on te paye, je dis bêtement, 100 000 francs. Tu dis, 100 000, là, c'est petit. Quand tu as problème, qu'est-ce que tu cherches à faire? Les gens cherchent à démissionner pour aller ailleurs. Démissionner pour aller ailleurs. Mais ce n'est pas démissionner qui va résoudre ton problème. Parce que tu as un problème plus sérieux que ça. Le problème peut être résolu si tu es en connexion avec le Seigneur lui-même. Et c'est ce qu'il va faire. Continue.
Qu'il envoya dans ses champs garder les porcs.
C'est-à-dire, même si tu dois démissionner ou faire quoi que ce soit, le Seigneur d'abord. Qu'il envoya garder les porcs. C'est-à-dire, chez eux, le porc est un animal impur. On ne peut pas s'approcher de ça. Mais c'est-à-dire, tellement ça ne va pas, il va se vautrer dans l'impureté. Dans l'impureté. Continue.
Il aurait bien voulu se remplir le ventre.
Regardez, il a tellement faim, il aurait bien voulu se remplir le ventre.
Des gousses que mangent les porcs.
Je dis, imaginez manger des cocotis. Tellement il a faim, il aurait aimé manger ça. Continue.
Mais personne ne lui en donnait.
Qui va lui en donner même d'ailleurs? Continue.
Rentrant alors en lui-même, il se dit.
Rentrant alors en lui-même. Prise de conscience. Dans quelques situations difficiles par lesquelles vous et moi nous passerions, la première des choses, c'est une prise de conscience. Si tu ne prends pas conscience de ton état, de la situation dans laquelle tu es, rien ne se passera dans ta vie. Il faut prendre conscience. Est-ce que tu as pris conscience de ce que tu es dans une situation qui normalement t'énerve? Si tu es dans une situation qui t'énerve, vrai, tu vas prendre les dispositions pour que ça ne t'énerve plus. Ou bien toi, quand tu trouves que la situation, ça t'énerve, il faut que ça t'énerve davantage. Non. Quelqu'un qui ne mange pas, quand tu rentres dans, tu prends conscience que vrai, là, je suis là, je fais ça là depuis, je ne mange pas. Hein. Tu dis non, il faut que ça s'arrête. Je veux manger aussi. Pourquoi je ne mange pas? Pourquoi mon argent, il n'arrive pas à épargner? Pourquoi je n'arrive pas à donner 5 francs à mes parents? Je prends parenthèse. Combien êtes-vous chaque mois à penser à vos parents? Combien êtes-vous? Aujourd'hui, là, je parle de l'éducation d'abord avant de venir à mon sujet. Combien êtes-vous à penser réellement à vos parents? Vous pensez que vos parents ont besoin de tous vos salaires? Vous pensez? Ils n'en ont que faire. La joie d'un parent, c'est déjà de voir son enfant réussir, c'est-à-dire être indépendant. Mais la deuxième chose importante, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Les parents attendent de toi et de moi que nous leur soyons reconnaissants pour tout ce qu'ils ont eu à faire. Tout le sacrifice ultime. Est-ce que vous imaginez que tu as fait ton enfant la nuit, tu es en train de dormir, il pisse sur toi. ou bien il fait caca, tu dois te réveiller, ou bien il est en train de pleurer la nuit, tu ne dors plus. Tu t'assois. On dit les couches sont finies. Comment je vais faire pour avoir le salaire qu'il faut pour que je puisse acheter les couches chaque jour, pour qu'il mange chaque jour. D'ailleurs, même voilà, il doit aller à l'école. Qui va payer son école? Donc, ce sacrifice que tu es en train de faire, ce que tu veux, c'est que l'enfant réussisse, soit indépendant, mais tu veux aussi qu'il soit reconnaissant pour dire un jour, mais, père, merci. Vraiment merci. Et la reconnaissance, ce n'est pas, écoutez-moi bien, notez ça très bien. Le Saint-Esprit est en train de me donner une phrase intéressante. La reconnaissance n'est pas le fait d'une action unique et spontanée un jour. La reconnaissance est une action perpétuelle. Est une action perpétuelle dans la vie du chrétien. Le chrétien doit être celui-là qui, chaque jour, manifeste reconnaissance pour tous ceux-là qui ont contribué à son succès, à son élévation, à sa bienveillance. Tu ne peux pas être chrétien et puis ne pas être reconnaissant. Et nous sommes nombreux, nous ne sommes pas reconnaissants vis-à-vis de nos parents, envers nos professeurs, envers nos enseignants, envers nos patrons, envers tous ceux-là par qui Dieu est passé pour nous faire du bien. Avant d'arriver sur tout cela, je veux tes parents d'abord. Tes parents. Quand la Bible dit honore ton père et ta mère, ce n'est pas dans la bouche. La reconnaissance veut que tu prennes le temps sur toi pour aller les saluer de temps en temps. Ah, papa, maman, vraiment, il y a longtemps. Ah, tonton, il y a longtemps. Quand tu viens, on dit à manière. Vraiment, je suis parti depuis là. C'est ce qui me plaît chez les amis là. Regardez, quand il veut donner son amanier là, il dit, je suis parti depuis. Il commence par, je suis parti depuis. Depuis quand? Il veut dire, c'est trop, ça a trop duré. Et vraiment, aujourd'hui là, j'ai pensé à vous. Et j'ai dit, il faut qu'ils viennent saluer mes parents. La reconnaissance. La reconnaissance. La reconnaissance, en ce sens que tu vas les saluer, en ce sens que tu vas participer à leurs difficultés, en les aidant de temps à autre. Mais en fait, ce qui est important, chaque fin de mois, de la même manière que chaque fin de mois, ils dégageaient quelque chose pour toi, toi aussi dégages quelque chose pour eux. De la même manière que tes parents dégageaient quelque chose pour toi, toi aussi dégages quelque chose pour eux. Si tu as 10 000 francs, je m'excuse. Arrête-toi pour leur donner au moins 2 000 francs ou bien 1 000 francs. Je préfère que tu ne viennes pas donner des dîmes chez moi que tu donnes à tes parents. Je préfère que de ne pas honorer tes parents. Combien êtes-vous à honorer vos parents? Quoi que la dîme soit obligatoire devant le Seigneur, honore tes parents aussi. C'est pourquoi Dieu dit, vous me volez par les dîmes et les offrandes. Il a mis les deux choses de côté. Dîme pour le serviteur de Dieu, mais et les offrandes, et tes parents. Tu fais quoi d'eux? Tu fais quoi d'eux? Chaque matin, tu te lèves, tu gagnes ton argent, c'est toi et ta femme. Si même ta femme gagne aussi. Tes enfants même n'ont jamais vu ton 5 francs. La reconnaissance, frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre toi seul. Comme si tout dépendait de toi. Les parents n'ont pas besoin de grand chose. Écoutez-moi bien. Un papa, quand il voit que son fils est venu un petit sac de riz de 3 kilos, maman, qu'on se nous, c'est vrai ou c'est faux? Elle rit en même temps. C'est vrai. Quand elle voit le berger qu'on se nous, Fabrice, apporter, maman, j'ai eu un petit régime de banane là, avec un petit kilo de, un petit sac de 5 kilos, un peu d'huile, macaroni. Et puis, maman, il n'y a mis qu'une magie, hein. Elle dit, mais vraiment, mon fils, bénédiction qui sort de ça là. Vous ne prospérez pas parce que vous êtes mauvais. Vos cœurs sont mauvais. Vos cœurs sont trop mauvais. Il n'y a pas une fois où je vais passer à Yamsoukro pour dire, je vais saluer mon tuteur, celui qui m'a élevé, et puis je ne vais pas apporter offrande. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et quand je viens, le monsieur ne fait que me bénir. Quand je vais chez les soeurs de mon... Contrairement à vous, moi, mon père et ma mère sont morts. Donc, je n'ai pas crédit de la vie sur moi. Vous, vos parents sont là, vous avez crédit de la vie sur vous. C'est-à-dire, moi, je ne dois plus rien à qui que ce soit. Normalement. Mais et tous ceux qui m'ont fait du bien, je leur dois aussi. Mais toi, tes parents sont là, profite maintenant pour être reconnaissant. Je n'ai pas dit de soulever ton salaire pour aller donner. Je dis, il faut être reconnaissant. Tu es là, tu dis, non, le stage, même, ce n'est pas grand-chose. Mon ami, 10 000, là, c'est 1 000 francs et qu'en 10. Si ce mois-là, tu refuses de payer un pantalon, l'argent de pantalon va donner à tes parents. Mets ça de côté pour tes parents. Soyez reconnaissant. Tu as dit non, je ne travaille pas, mais quelqu'un t'a fait une offrande, non? Si quelqu'un veut te donner une offrande de 20 000, quelqu'un a pensé à toi et t'a donné 20 000. De la même manière qu'on a pensé à toi, toi aussi pense à tes parents. Vous attendez d'être riche, mais vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses. Comment vous voulez que Dieu vous donne de grandes? Comment? Dites-moi. C'est quel genre de chrétienté vous menez même? Je dis toujours, je suis le plus mauvais parmi vous. C'est pourquoi je dis, il y a des gens qui vivent moins saintement que vous. Ça, c'est moi. Mais je suis plus saint que vous. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui vivent moins saintement que nous, mais qui sont plus saints que nous. C'est-à-dire, vous prenez la Bible, vous dites, non, voilà, tu n'insultes pas, tu ne fais pas comme ceci. Mais celui-là même qui est en train d'insulter, derrière, il a ce regret-là et puis il agit, il s'occupe des gens. Il s'occupe des gens. Il fait comme ceci. Tu penses que toi, tu es saint que lui? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Soyez reconnaissants envers vos parents. Soyez reconnaissants. Soyons reconnaissants envers tous ceux-là qui nous ont fait du bien. Amen, alléluia. Il y a des gens qui ont commencé à changer de mentalité en même temps. J'espère. Il ne faut pas attendre d'être milliardaire pour faire du bien à tes parents. Il ne faut pas attendre. Si c'est 10 000 ce mois, ce n'est pas chaque mois, peut-être tu peux avoir. Mais tu peux dire, ce mois-là, papa, il y a eu 2000. Et puis tu t'en fais. Amen. J'ai essayé de calculer. Un sac de riz de 5 kilos, ça fait combien? 3500. Une bouteille d'huile, ça fait combien? 1500. Non. 1000 francs, 1 litre, 1000 francs. Ça fait combien? 4500. Tu payes tablette Q-Magie, là, c'est 500. Hein? Ça fait 5000. Il te reste combien? 5 000. Si tu veux faire pour 10 000 par mois, tu payes pâte alimentaire, tu payes deux savons, tu payes, enfin, de petites choses. Et puis, tu peux mettre 3 000 dessus. 2 000, 3 000. Ah, maman, ton fils passait au dit là. Bon, c'est ce qu'il a pu avoir. Hein. Ça te coûte quoi? Mauvais que tu es. Méchant que tu es. Quand ta maman est en train de souffrir, là, tu as pensé à elle. Tu as pensé à elle. Quand ton papa souffrait, tu as pensé à ça. Quelqu'un va changer sa mentalité en ce soir au nom de Jésus-Christ. Chacun de nous va prendre des engagements pour commencer à honorer son père et sa mère chaque soir, chaque jour. Combien de fois, depuis combien de fois, la dernière fois tu as appelé tes parents, c'est quand? Celui qui t'a fait du bien un jour, là, tu l'as appelé, la dernière fois, c'était quand? La dernière fois, c'était quand? Il y a d'autres, c'est tous les jours. Mais c'est leur reconnaissant. Maman, il t'a fait pour causer. Maman, tu vas bien? Sinon, ici, là, même maman, c'est Dieu. Elle t'a pas demandé ça. Il y a des gens, chaque jour, ils vont appeler leur maman pour dire c'est Dieu. Pour ne pas que la maman dise, il faut me donner 1000 francs. Non, maman, sinon, vraiment, c'est pas facile à Abidjan. Maman, est-ce qu'elle t'a dit même ils ont augmenté courant même? Je t'ai rien dit au travail là-bas. On dit, on nous l'envoie où? Tout ça là, pour qu'elle ait encore compassion de toi dans sa vieillesse, où elle souffre. Quelqu'un va changer de mentalité au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Venons à notre sujet, continuons. Il se dit, rentrant en lui-même, il se dit.
Combien d'ouvriers de mon père ont du pain de reste, tandis que moi, ici, je meurs de faim.
Right, on va s'arrêter là. Je voulais que tu continues, on va s'arrêter là. Mon thème de ce soir, c'est quoi? Le sacrifice ultime. Écoutez-moi bien. Notez bien ce que je vais vous dire quand je vais parler. Il se trouve que toi et moi, nous avons eu une manière de faire, de vivre, un comportement réprimandable, réprimable, réprimandable, mauvais. Tout le monde nous dit on agit mal. Tout le monde nous dit que lui là, il est comme ceci, celle-là, elle agit comme les prostituées, elle est comme ceci, elle est comme cela. Nous avons eu des choses qui ne sont pas dignes de chrétiens, n'est-ce pas? Le sacrifice ultime que toi et moi nous pouvons faire, tu sais c'est quoi? Affronter le regard des autres. C'est-à-dire braver tout ce que nous avons fait, braver le regard des autres pour aller vers le Père. Parce que le fils prodigue, dans cette situation-là, il pouvait dire, mais il a gaspillé l'argent. Comment mon père va me voir? Il n'a jamais dit ça. Comment mon grand frère va me voir? Les serviteurs même, comment ils vont me voir? Aujourd'hui, mon habit est déchiré sur moi. Les gens disent que moi, je suis une prostituée, j'ai fait comme ceci. Je suis sorti avec tel homme marié. J'ai fait tel enfant dehors. Le sacrifice ultime pour toi serait d'affronter le regard de tout le monde pour braver cela. Une fois que tu braves cela, tu rentres dans la grâce de ton père. On s'en fout des hommes. Ce que le fils cherchait, si vous avez fait très attention dans ce que nous avons lu, il ne cherchait pas la compassion des hommes. Il ne cherchait pas la félicité des hommes. Il cherchait la compassion de son père. Tout ce que nous faisons, c'est en vue d'avoir la bénédiction de notre Dieu. C'est afin que Dieu soit satisfait de nous, soit content de nous. Amen. De ce fait, si les hommes te critiquent, si les hommes disent des choses de toi, si les hommes disent quoi que ce soit de toi, et que les gens, tu as du mal à affronter le regard des gens, le sacrifice ultime, c'est tuer ton orgueil. Tuer ce qui t'empêche de faire le pas. Parce qu'on dit rentrer en lui-même. Il a dit non, il faut qu'il parte vers le Père. Mais le sacrifice ultime ne consiste pas seulement à rentrer en soi. C'est oser se lever et reprendre le chemin, le bon chemin que nous avions pris avant. C'est par exemple quelqu'un qui était dans cette communauté qui peut avoir eu des comportements malsains ou bien a eu des réactions, des actions mauvaises et qui a quitté la communauté et qui se dit, mais comment je vais, quand je vais venir, comment les gens vont me regarder? Est-ce qu'ils vont m'accepter encore? Moi qui ai été si mauvais, le berger même, je lui ai manqué de respect. Je l'ai insulté, j'ai agi comme ceci. La force que la personne doit avoir, c'est ce sacrifice ultime de tuer son orgueil. Détruire ce qui est barrière. Une fois que tu arrives à tuer cet orgueil, tu deviens petit, tu dis, c'est pas grave. Quel que soit ce qu'on dira, je reconnais que j'ai tort. Le fils dit, je vais aller, je vais dire à mon père, mais j'ai péché contre toi. C'est pas grave, je vais aller. C'est pas grave, je vais aller. Qu'on dise ceci de moi, oui, je reconnais avoir péché. Qu'on dise cela de moi, oui, je reconnais être tombé. Qu'on dise ceci, oui, je reconnais avoir fait ce qui est mal, mais je vais être parti quand même. Je m'en vais. Je m'en vais. Et quand on dit tu t'en vas, imagine, tous ceux avec qui tu avais fait le show, dans la boîte de nuit, dans les boîtes de nuit, eux tous étaient réels, tu nages à compte courant maintenant. Imaginez combien de fois c'est difficile de nager à compte courant. Celui qui sait nager sait de quoi je parle. C'est-à-dire la vague en train de te ramener comme ça, toi tu es en train de nager pour traverser les vagues. C'est-à-dire tu es en train de marcher et les gens commencent à t'humilier. Ils disent par exemple, c'est qui, ils voient quelqu'un pour qui ils ont parlé hier ou bien avant-hier. Il y a un frère là, c'était Berger Corneille. Berger Corneille me racontait cette histoire qui m'a plu, il nous racontait ça, où il disait, tes amis, il y avait votre mariage ou bien quelque chose comme ça, tu parlais sur votre plateforme, il a dit quelque chose, dis-moi ça, c'est ça qui me plaît. Voilà, il parlait de jeux concours bibliques. Voilà, attends, je te donne le micro, tu peux expliquer.
Alors, c'est un groupe d'amis d'enfance sur lequel on échange. Donc, tous les dimanches, c'est-à-dire à 20h là, il y a ce qu'on appelle le fauteuil blanc. Donc, on prend quelqu'un, on lui pose toutes les questions. Donc, comme c'est un groupe, faut le redynamiser, faut le faire bouger. Donc, j'ai dit comme ça que je vais lancer une activité. Donc, j'ai mis JCB et je n'ai rien dit d'autre. Donc, tout le monde vient, c'est quoi qu'il y a JCB? C'est quoi qui est JCB? Donc j'ai dit, jeu concours public. Tout le monde est glacé, tout le monde me regarde, mais jeu concours public, tu as fait ça quand? Donne-nous le jour. Voilà, on se rappelle de ce Corneille là qui organisait les bons shows. Voilà, c'est chaud. Allez, acclamons le Seigneur. Voilà, tu as organisé les bonnes choses. Tu as fait les bons shows. Aujourd'hui, tu veux dire que toi, tu es chrétien. Donc, pour s'adresser à Corneille sur le groupe, c'est Pasteur Akosi.
Amen, alléluia. Donc, le regard des autres que tu dois affronter, tous ceux-là qui t'ont vu avant, de la même manière que quand il parle, on a notre groupe des anciens du lycée scientifique là. Nous, promotion 94. Donc, ceux-là, ils étaient là, on est sur le groupe. Et puis, il y a un monsieur, ils ont dit un nom, mais moi je ne connaissais pas ce nom. Et puis, ils ont dit Adamo, pasteur Adamo. Donc, je croyais que l'un des nôtres était devenu pasteur, ou bien ils ont dit non, en fait, on partait sur pasteur Adamo. Mais eux, ils ont commencé à citer les gens qui partaient là-bas. Pasteur Adamo, vous savez, c'est quoi? C'est un vidéoclub où le monsieur mettait de la pornographie. Et puis ils ont commencé à citer les gens. Dieu merci, on ne m'a pas cité. Hey! Donc j'étais là, je lui ai dit, quand on rappelle ton passé comme ça, on veut te dire, mon ami, ta conversion, il ne faut pas blaguer les gens. Nous, on te connaît. On te connaît. Quand ils sont en train de rappeler ton passé, ils vont dire, tu as oublié tout ça? Toi aussi. Tu as oublié. Il ne faut pas dire, tu as oublié. De toute manière, tu peux blaguer tout le monde, sauf moi. C'est ce qu'ils vont te dire. Mais tu dois braver cela. Affronter leur regard pour dire oui, j'ai changé. Ma décision est ferme et univoque et unilatérale. Je m'en vais voir mon père afin qu'il me pardonne. Un point très. Le sacrifice ultime, c'est tuer sa volonté pour la laisser réagir la volonté de Dieu en notre faveur. Tuer sa volonté. Or, tuer sa volonté, c'est tuer son orgueil. Imaginez le regard des gens. Est-ce que vous imaginez le regard des gens? Béni sois-tu, Seigneur. Je vais vous donner l'exemple d'un homme de Dieu qui m'a fasciné, qui est mon modèle. Il y a trois hommes de Dieu qui sont mon modèle dans la Bible. Il y a Moïse, il y a David et puis il y a Paul. Le roi David, il allait sortir à une femme. Femme mariée. Comme si ça ne suffisait pas, tellement il voulait la go là. Parce que la go dit à l'enseigne, il a dit non, qu'à tuer le gars là. Le monsieur, le mari de la femme. Ce n'est pas ta femme. Mais regardez quelque chose. Quand Nathan va venir le voir, parce que c'est David même qui a écrit son histoire. Est-ce qu'il était obligé d'écrire pour que vous et moi nous sachions? Hein? Mais Nathan le rencontre dans le secret et puis dit, voilà ce que tu as fait comme péché. Le regard, David est mort en lui-même. Regardez ce que David va faire. Quand il a dit, voilà ce que tu as fait, tout ça, et que ton père, Dieu, qui tu dis tu aimes, est très en colère, David a pleuré et vous savez ce qu'il a fait? Il allait à la porte de la ville, c'est minuit, il était en kojo-kojo, et puis il s'est couché à terre, puis il a commencé à pleurer. Affronter le regard de tout le monde. Que tout le monde sache que oui, j'ai commis tel péché. C'est pas grave. Le plus important, c'est que mon Dieu me pardonne. Le plus important, c'est que mon Dieu voit ma repentance réelle. Le plus important, c'est que mon Père sache que oui, j'ai renoncé à ma vie ancienne et que je veux vraiment marcher avec lui. Le roi David est allé se coucher dehors. Et il a écrit l'un des plus beaux textes que moi je connaisse. L'un des plus beaux textes de la Bible. Le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde, efface mes péchés. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta grande bonté, selon ta miséricorde efface mes péchés. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est devant moi. J'ai péché au roi de Sion, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Le texte est tellement beau. Mais je vous ai dit, c'est dans le secret que le prophète Nathan allait le rencontrer. Vrai ou faux? C'est lui seul qui savait ce qu'il avait fait. Vrai ou faux? Mais il a affronté le regard des gens. Parce que de toutes les manières, la fille, on la voit enceinte. Vrai ou faux? Est-ce qu'on ne la voit pas enceinte? On va demander c'est qui? Qu'est-ce que je dois faire? J'assume. C'est ce que David a dit. J'assume. J'assume. Que les gens se moquent de moi. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Que les gens interprètent comme ils veulent. La seule chose que je veux, c'est que mon Dieu ait pitié de moi. Qu'il ne me rétit pas. Dans le texte encore, il dit, ne me rétit pas ton Esprit Saint. Ne me rétit pas ton Esprit Saint. Quelqu'un me suit? C'est le regard des autres qui nous empêche de rencontrer la miséricorde de Dieu, frère. Le regard du prochain nous empêche de rencontrer la miséricorde de Dieu. C'est le regard des autres qui nous empêche de rencontrer la miséricorde de Dieu. Sinon, cette miséricorde-là est disponible lorsque toi et moi, nous entrons en nous-mêmes et que nous nous levons en tuant, en sacrifiant notre orgueil pour dire, « Père, me voici !» Le regard des autres nous condamne, frères et sœurs. Le regard des autres nous fait prendre de mauvaises décisions. Le regard des autres nous empêche de dire la vérité. Le regard des autres nous cloue dans le péché. Le regard des autres nous maintient dans la captivité de Satan. Le regard des autres. Donc le sacrifice ultime, c'est accepter de croiser le regard des autres. Croiser le regard des autres dans la vérité de l'évangile. Vous savez, j'ai dit à Dieu, quel que soit mon état, il y a une seule chose que je te demande. Donne-moi de toujours proclamer la vérité de l'évangile. Quand je vous donne ces choses-là, je ne suis pas mieux que quelqu'un parmi nous. Jamais de la vie. Mais je dis ces choses qui vous concernent, mais qui me concernent en premier. pour nous amener à vivre une intimité avec Dieu notre Père. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il faut avoir le sacrifice ultime gravé sur la table de notre cœur. Ce sacrifice ultime, je le dis encore, c'est accepter de croiser le regard méchant de tous ceux-là qui nous regardent. Je dis bien, c'est accepter de croiser le regard méchant, accusateur, le regard mesquin, le regard moqueur de tous ceux-là qui sont sur notre chemin. Les gens n'attendent que ça pour se moquer de nous. Mais plus on se moque de toi, plus on se moque de moi, plus nous sommes élevés devant le Seigneur. Plus on se moque parce que nous avons proclamé la vérité, parce que nous sommes humiliés devant le Seigneur, plus nous sommes élevés devant le Seigneur et plus nous sommes trouvés agréables devant le Seigneur. Voilà pourquoi je dis encore, il y a des gens qui vivent moins saintement que nous, mais qui sont plus saints que nous. Je le répéterai toujours. Il y a des gens qui vivent moins saintement que nous, mais qui sont plus saints que nous. Celui-là, par exemple, qui a commis un tel péché, nous, on va se moquer de lui. On n'a plus la sainteté de Dieu en nous. Mais lui, parce qu'il a commencé à regretter, il est sauvé. Et nous, nous sommes condamnés. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a suivi? Frère, les gens veulent nous voir échouer. Et pour nous voir échouer, l'ennemi, son objectif, c'est que nous ne soyons pas partisans de la vérité. Si tu dis la vérité, si je dis la vérité, ils vont parler, n'est-ce pas? Ça ne t'empêche pas de manger. Ça va blesser les personnes qui avaient confiance en toi, c'est vrai. Mais il y a une personne que, au lieu que ça blesse, cette personne se réjouit, c'est ton Père. La vérité du fils prodigue, quand il a proclamé cette vérité, ça a blessé son frère. Il dit, celui-là qui allait dilapider ton argent là, qui allait dilapider ton argent. Mais le Père dit, mais arrête de faire ça. Au lieu de te réjouir pour ton frère qui est revenu à la vie, toi tu parles de dilapider l'argent. Il est mon fils. Les gens veulent te voir, ils veulent nous voir, toi et moi, échouer pour toujours. Maintenu dans la captivité pour toujours. Quand il nous regarde, en fait tu es un modèle pour lui. Et le fait que tu sois tombé, il était heureux, il dit enfin. Mais lorsque tu te lèves, il ne croit pas que dans cette situation tu pouvais te lever. La différence entre Judas et puis Pierre, c'était ça. Pierre a cru en la miséricorde de Dieu. Il s'en fout du regard de tout le monde. Tout le monde a vu que Pierre, devant tout le monde, devant Jean, Jean a vu que Pierre a renié Jésus devant Jean. Il y a un témoin. Et pourtant, on dit Jésus est ressuscité, il court, il s'en va. Jean pourrait dire, mon ami, on se connaît ici. Et c'est ce que nous ici, nous faisons nous. On se connaît ici depuis quand toi tu es converti. C'est pas toi qui fais comme ceci, comme cela. C'est pas toi qui trompes les gens. C'est pas toi qui voles les gens. C'est pas toi qui escroques les gens. C'est pas toi qui commets l'adultère. C'est pas toi, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que tu regrettes ton péché, que tu repartes vers ton Père. Quelqu'un me suit? Avant-hier, il y a l'un de nos frères, l'un des Belgiques m'a dit, Daddy, tu es devenu tellement, tu parles de miséricorde que moi-même je ne comprends plus. Tu n'es plus dû comme avant. Il a souri, je lui ai raconté pourquoi. Le Seigneur m'a repris là-dessus. Mais au-delà de cela, heureux les miséricordieux, ils obtiendront quoi? La Bible dit, l'instrument avec lequel tu juges les gens, c'est cet instrument qui va servir à te juger. Donc si j'ai jugé quelqu'un en miséricorde, qu'est-ce qui va servir à me juger? Alléluia. Moi, je vous dis, je ne veux pas périr. Comme Paul, je ne veux pas dire, de peur, Paul dit, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Dieu me fait miséricorde. Pourquoi il n'y a pas vous faire miséricorde? Pourquoi? Je suis qui? Qui? Dans ce monde? Ou bien parce que j'ai un micro en main? Peut-être même si la colère de Dieu s'abattait tout dessus, c'est moi, je serais le premier à être éliminé. Pour ne pas qu'il m'élimine, j'ai dit, Seigneur, apprends-moi, donne-moi un cœur de miséricorde. Là, quand il va regarder, quand il te regarde en toi, il voit que tu as manifesté ça. Ne soyons pas comme le grand frère du fils, perdu et retrouvé. Amen. Rentrons en nous-mêmes et tuons le regard des gens. Je le dis parce que certains frères ont connu des déboires dans la communauté. Et ils sont venus me voir. Où eux, ils me cachaient certaines choses. Et puis un jour, il a appelé un. Il voulait parler. Il a dit, je sais que tu es enceinte d'une femme. Je sais. J'ai dit, je sais. Il m'a regardé comme ça. Il dit, si. J'attendais juste que tu aies la force de venir me parler, c'est tout. Moi, je fais comme le père. Et puis il dit, non, Daddy, tu n'es pas fâché. Il dit, je suis fâché contre ton acte, mais je ne suis pas fâché parce que tu as eu la force de revenir. Reviens à la maison. Et puis, corrige-moi cette situation. Corrige ça. Je veux que tu changes dans cette situation. Parce que ce qui m'importe, c'est que tu sois en paix envers Dieu. Ce qui m'importe, c'est que tu ne perdes pas le salut. C'est une chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. Les erreurs, on les commet tous les jours. Amen, alléluia. Celui qui se croit plus saintement que quelqu'un, c'est celui-là qui est en passe de tomber. Écoutez-moi bien, notez ça. Le jour où tu vas te croire plus saint que quelqu'un, ce jour-là, tu es déjà tombé 10 000 fois que tout le monde. Ne te crois jamais plus saint que quelqu'un. Jamais. Vois-toi comme le plus faible, le plus misérable. Et implore le secours, la miséricorde de Dieu pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux pas tenir. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire, le Seigneur va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis, Jésus-Christ va dire, encore par le Saint-Esprit, à Paul, dis, je puis tout par celui qui me rend fort. C'est lui qui me rend fort. Et s'il me rend fort, je peux alors. S'il ne me rend pas fort, je ne peux pas. La seule chose que je sais, c'est que je puisse abandonner ma volonté à la volonté du Seigneur. Le seul sacrifice que Dieu demande à chacun de nous, c'est d'abandonner sa volonté à la volonté du Seigneur. Le seul sacrifice que Dieu demande à chacun de nous, c'est d'accepter d'être humble. Reconnaître ses faiblesses, ses limites, ses incapacités. Et de dire à Dieu, transforme-moi. Fais de moi un instrument d'agréable odeur. Fais de moi une personne d'agréable odeur. Personne parmi nous n'est plus saint que son ami. Le jour que je vais vous dire je suis saint que vous, chassez-moi de cette communauté. Ou bien quittez cette communauté. Ça veut dire que ce jour-là, je suis tombé trop grave. L'orgueil est entré dans ma vie à un point où je me vois supérieur à quelqu'un. Amen, alléluia, amen. Quelqu'un me suit? Ton sacrifice ultime à toi, ne l'oublie pas. C'est de trouver toute l'énergie en toi. Affronter les critiques, le regard, les injures des uns des autres dans la situation que tu traverses et de marcher vers le Père. L'objectif, c'est le Père. L'objectif, ce n'est pas la foule. Vous me suivez? L'objectif, c'est qui? Le Père. L'objectif, c'est qui? Le Père. L'objectif, c'est qui? Mais tu vas ajouter, c'est le Père miséricordieux. L'objectif, c'est qui? Son nom, c'est qui? Dis encore le Père miséricordieux. Son nom, c'est qui? La force du chrétien, c'est qu'il a comme arme efficace la miséricorde. Vous me suivez? La force des autres religions, c'est la loi. Les lois de leur religion. Mais la force du chrétien, c'est la grâce contenue dans la miséricorde de Dieu. Je ne compte pas sur ma capacité à respecter la loi. Mais je compte sur la capacité de Dieu à m'accorder la grâce, la faveur. C'est sur ça que je compte. Parce que humainement, si je regarde bien ma vie, je ne vois même pas un mérite en moi. Qu'est-ce que je peux faire qui peut être agréable à Dieu? Mais Dieu, quand il déploie sa miséricorde et sa grâce sur moi, il me trouve saint. Il dit, voici mon fils bien-aimé, sur qui repose mon esprit. Il regarde David, est-ce que Dieu ne voit pas? S'il vous plaît, Dieu est omniscient ou pas? Il est omniscient. Ça veut dire que ce que David allait faire, il voyait ça déjà. Vrai ou faux? Et pourtant, il n'a pas hésité un seul instant à dire, voici l'homme selon mon cœur. Vous savez pourquoi il a dit ça aussi? Parce qu'il a vu en David, celui-là qui est capable capable d'affronter le regard de tout le monde et de dire la vérité pour que son, le nom de son Dieu soit honoré. Amen, alléluia. Amen, alléluia. En cette semaine, ce que nous allons faire, si nous devons affronter le regard des gens, nous allons affronter. Mais ce n'est pas ce que je veux demander à chacun. C'est de demander à chacun, de demander à Dieu de développer l'humilité dans notre vie. Donc, que Dieu nous expose à des situations qui appellent notre humilité. C'est de développer l'humilité dans notre vie. Parce que l'humilité attire la faveur de Dieu. L'humilité est mère de toutes les vertus. Et l'orgueil est mère de tous les vices. Nous allons demander à Dieu de nous accorder l'humilité. Comme jamais on a vécu. Pourquoi? Parce qu'avant la gloire, il faut l'humilité. Si tu n'es pas habillé d'humilité, quand la gloire va tomber sur toi, elle va t'écraser. Regardez bien, pour que Jésus soit glorifié, on dit quoi? Devenons petits. C'est un cheminement. Devenons petits, s'humilier jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Donc, prémisse d'abord, humilité, abaissement. C'est l'humilité qui peut te permettre de supporter la gloire. C'est l'humilité qui peut te permettre de supporter l'élévation. C'est l'humilité qui peut te permettre de supporter la glorification. Nous allons demander à Dieu, tout au long de cette semaine qui va commencer là, la grâce de l'humilité. La grâce de l'humilité. Nous allons chercher dans tous les livres tout ce qu'il faut pour l'humilité. On a écrit un livre là-dessus. Les vertus chrétiennes. La grâce de l'humilité. Amen, alléluia. Tu vas élever la voix, tu vas rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur pour ce temps. Dis merci Seigneur pour cet enseignement. Béni sois-tu Seigneur, béni sois-tu.
PPE, pastorale pour la propagation de l'évangile.